Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Cazal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Jacques Gérard, qui a eu une carrière fort intéressante. Il connaît une partie du monde, mais c'est de l'île Maurice que j'aimerais qu'il nous entretienne aujourd'hui. Jacques Gérard, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, vous avez eu une émission sur le Libéria, car vous avez été ambassadeur. Et j'aimerais que vous nous donniez l'histoire de votre carrière quand vous avez terminé vos études, à partir de ce moment.
Mais en fait, j'ai terminé mes études très tôt, à 21 ans.
Oui.
J'avais fait Sciences Po à Paris. Et j'ai commencé par travailler à l'Éducation nationale.
Oui.
Et là, je me suis intéressé à la création des universités africaines qui sortaient de terre les unes après les autres. C'était passionnant. Si bien que, quelques années plus tard, après avoir fait l'école d'administration, j'ai choisi l'aide au développement comme carrière.
Oui.
Et c'est ce que j'ai fait l'essentiel de ma vie, soit à Paris, au ministère de la coopération, comme on l'appelait,
oui,
ou dans différents pays, comme chef de mission de coopération. Et la première de ces missions que j'ai eu à diriger, c'était celle de l'île Maurice, il y a maintenant 25 ans, en 1990.
Vous avez dû avoir le sourire quand on vous a dit « vous êtes nommé dans l'île Maurice ».
Ah, mais j'avais fait un forcing épouvantable pour obtenir ce poste.
Oui, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile.
Il était très convoité.
C'est l'île de rêve.
Alors justement...
Pour la plupart des Français,
voilà,
c'est l'île de rêve. Et je crois que justement, vous avez quand même une autre... optique, celle d'un diplomate, d'un ambassadeur, qui ne voit pas les choses comme le touriste qui vient passer 8 jours, qui découvre les plages. Et je crois qu'effectivement, ça m'intéresse beaucoup que nous ayons l'œil du diplomate sur l'île Maurice.
Oui, oui, les Français se font du reste du monde une idée qui, soit résulte de la façon dont ils comprennent leurs intérêts.
Oui.
Par exemple... les ouvriers du textile ont perdu leur emploi du fait de la concurrence chinoise, donc ils n'ont pas forcément une très bonne opinion de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ou alors, d'idées toutes faites, de préjugés.
Oui.
On a par exemple une idée merveilleuse du Brésil,
terre de
la danse,
voilà,
de l'amour, du soleil.
Voilà, le carnaval.
Vivre au Brésil n'est pas forcément... aussi beau que le pensent la plupart des Français. Le diplomate, lui, doit connaître profondément le pays dans lequel il est en poste, de façon à le comprendre et à défendre les intérêts de notre pays,
oui,
au mieux.
Oui, parce qu'il faut bien savoir qu'une ambassade, c'est une enclave du pays, c'est une enclave de la France, par exemple, dans un pays.
Voilà, il y a des règles qui font que les ambassades sont inviolables.
Oui.
Ça explique, par exemple, que Assange, le fondateur de WikiLeaks,
oui,
soit depuis des années réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres,
oui,
sans que personne puisse aller l'arrêter.
Oui. Hein. Donc d'abord, c'est bien que vous nous fassiez un tableau déjà de ce qu'est une ambassade. Donc c'est d'abord inviolable.
C'est inviolable. Ensuite, un ambassadeur est nommé par le président de la République,
oui,
pour le représenter. Nous sommes les représentants de la France, mais très particulièrement les représentants du président de la République.
Oui.
C'est un legs lointain de la royauté.
Alors, vous êtes arrivé à l'île Maurice en 1990, et c'était quel président de la République qui vous a...
C'était François Mitterrand, à cette époque-là.
Oui. Donc là, vous n'étiez pas ambassadeur vraiment, vous étiez...
Chef de mission de coopération.
Oui.
Donc, responsable de l'aide que la France apportait à l'île Maurice.
Donc, il fallait que ce soit signé, cette lettre, du président de la République et aussi du Premier ministre, j'imagine.
Voilà, qui était Michel Rocard.
Ah ben voilà. Donc, vous allez vous installer à l'île Maurice. Vous pouvez emmener votre épouse.
Oui, c'est un pays très paisible.
Voilà. Et alors, Comment se présente l'ambassade déjà ?
Alors c'est une petite ambassade,
oui.
Mais malgré tout, elle est très importante par rapport à la population. L'île Maurice, c'est 1 million d'habitants, un peu plus.
Oui.
Or, nous avons avec ce pays des liens extrêmement étroits. Mmh. D'abord, c'est un pays frontalier de la France, même s'il est perdu au milieu de l'océan Indien.
Alors justement, un petit peu de géographie pour nos auditeurs qui auraient un petit peu quelques lacunes.
Et on dit que les Français sont mauvais en géographie.
Voilà, alors faisons un peu de géographie. Alors,
l'océan Indien, comme son nom l'indique, c'est l'océan qui baigne le continent asiatique au sud, avec le sous-continent indien, l'Afrique de l'Est et l'Australie. Alors au milieu de tout ça, il y a des îles. Il y a Madagascar, la plus grande. Il y a l'île Maurice et il y a la Réunion, qui est la France.
Oui, bien sûr.
Située à quelques dizaines de kilomètres, 170, je crois, de la Réunion.
En fait, c'est un petit pays.
C'est un petit pays.
C'est un petit pays parce qu'il n'y a pas tellement d'habitants. Alors pourquoi ça s'appelle l'île Maurice ?
Cela vient du nom d'un dirigeant hollandais du XVIIe siècle. Mmh. Puisque les Hollandais ont été les premiers à s'installer dans cette île qui était inhabitée. Et bon, ils ont été obligés de l'abandonner à la suite d'une révolte d'esclaves. Et les Français s'y sont ensuite établis. Et là, ça a très très bien marché.
Oui.
Avec la création d'une île sucrière supplémentaire. Il y en avait d'autres en Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe. Haïti, qui à l'époque
Haïti
était
aussi,
également française.
Oui.
Voilà, une colonisation ex nihilo, avec l'arrivée de nombreux esclaves noirs et malgaches pour la culture de la canne à sucre. Et puis, l'île Maurice était aussi le point d'ancrage de corsaires du roi, notamment Surcouf, qu'on connaît bien en France.
Bien sûr, oui.
Alors, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, Surcouf écumait les eaux de l'océan Indien avec succès,
oui.
À tel point que les Anglais ont une première fois essayé d'envahir l'île, ils ont été repoussés, et une seconde fois, en 1810, donc pendant que Napoléon gouvernait la France, et là, ils ont réussi à envahir l'île en atterrissant dans un endroit qui s'appelle Cap Malheureux. De l'île qui l'ont appelé ainsi, car les Français sont restés.
Oui.
Ils y sont encore, les franco-mauriciens.
Oui, c'est pourquoi on parle anglais, français et créole, j'imagine.
Alors, on y parle une douzaine de langues à l'île Maurice, car une grande partie, une majorité de la population vient du sous-continent indien. Les Anglais ont aboli l'esclavage.
Oui.
Ils ont été les premiers à abolir l'esclavage, à part la Révolution française, mais vous savez que ça n'avait pas duré, Napoléon l'avait rétabli.
Oui.
Donc, après l'abolition de l'esclavage, il leur fallait de la main-d'œuvre pour continuer à cultiver la canne à sucre. Cette main-d'œuvre est venue de l'Inde. Si bien qu'il y a des gens qui parlent le Maharati, d'autres le Gujarati, d'autres l'Hindi, différentes langues du subcontinent indien.
Mais la majorité parle...
Alors, tout le monde parle le créole. 99%.
Et vous-même ?
Alors, moi, je me suis rendu compte un jour, quelques mois après mon arrivée, que j'écoutais un discours qui me semblait très intéressant. Et il était en créole, donc ça y est, je m'étais habitué à la musique de cette langue qui est très belle, qui est issue du français.
Oui.
Et qui n'en est pas très différente.
Alors, dites-nous quelques phrases en créole, qu'on se rende compte.
Ah, tous les Français connaissent tifleur fanée, tifleur coupée.
Ah oui, c'est hein? Ça. Alors, ça veut dire...
Petite fleur fanée, petite fleur coupée.
Ah oui, ça ne change pas tellement, alors.
Voilà.
Ouais. Hein?
Là-bas, quand on a soif, on prend une paire de tiponches.
Ah oui.
Etc.
Oui.
Donc, c'est une langue...
Et la langue diplomatique
colorée. La langue nationale, officielle, est l'anglais.
C'est l'anglais.
Mais 80% de la population parle français.
Ah oui.
C'est la langue la plus répandue, la langue étrangère la plus répandue. On apprend l'anglais à l'école.
En première langue, enfin...
Comme première
comme
langue.
Comme première langue,
puisque
c'est
langue d'enseignement.
Ah oui.
Comme langue d'enseignement dès la maternelle.
Ah oui.
Et on apprend le français ensuite comme langue étrangère. Mais il se trouve que c'est la langue qui a donné naissance au créole. Mm. La presse est écrite en français. La télévision parle beaucoup plus français qu'anglais.
Ah oui.
Et on reçoit parfaitement Antenne 2 sur les deux tiers de l'île, puisque La Réunion est voisine. Donc pour les Mauriciens, le français est une langue tout à fait quotidienne, d'autant plus que nombreux sont les touristes qui viennent de France.
Oui, c'est les touristes français sont les plus nombreux.
Je pense.
Oui, plus que les Allemands.
Oui, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, notamment d'Afrique du Sud.
Oui, ah oui, oui, bien sûr. Mais ce sont les Français qui sont en majorité.
Je pense que c'est le groupe le plus important, sinon un des plus importants.
Alors, on a gardé le code Napoléon, on a gardé...
Voilà, là où les Anglais arrivaient, ils ne changeaient pas les lois
existantes. Ça, c'est quand même intéressant.
Ils en ajoutaient d'autres.
Oui.
Mais ils permettaient aux populations de garder leurs lois, leur religion, etc. Le code Napoléon était en vigueur depuis une dizaine d'années sur l'île. Il est donc resté.
Oui. Il y a d'autres choses comme ça qui sont restées aussi
énormément.
Des Français. Ah oui, par exemple.
Énormément.
Par exemple.
D'abord une population.
Ah oui, bien sûr.
Franco-mauricienne, la langue, et puis des relations extrêmement étroites avec la France. Les Mauriciens les plus connus, comme par exemple l'écrivain, poète et peintre Malcolm de Chazal, qui faisait partie du groupe des surréalistes.
Oui.
Et Mauricien.
Ah oui. Hein,
le prix Nobel de littérature.
Oui.
Comment s'appelle-t-il ?
Le Clésio.
Le Clésio.
Ah, oui. Clésio, il est mort.
Le Clésio est mauricien.
Ah, je ne savais pas, j'adore le Clésio.
Je me suis d'ailleurs marié dans la maison natale de Le Clésio.
Ah oui ?
Oui, oui, oui. Un grand privilège.
Ah là là. Et c'est, alors moi, j'adore Le Clésio et je ne savais pas qu'il était... Je ne me rappelais pas qu'il était mauricien.
Oui, oui. Baudelaire a séjourné à l'île Maurice.
Ah oui, oui.
Et il en a ramené de superbes poèmes, notamment celui qui est dédié à une dame créole.
Oui, c'est vrai.
Et l'intensité des relations économiques, culturelles, est quelque chose qui est rare.
Oui.
Si bien que cette petite ambassade traite en fait beaucoup d'affaires.
Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez eu déjà beaucoup à faire ou c'était votre premier poste ?
C'était mon premier poste comme chef de mission, oui.
Alors, en quoi consistait votre mission ?
D'abord, j'étais à la tête d'un groupe de coopérants.
Oui.
Ils étaient 35 à l'époque. Et j'avais également à superviser, mais de plus loin, car elle était indépendante, l'Association des volontaires du progrès.
Et c'était quoi, ça, l'association ?
Alors, ce sont des jeunes qui venaient mener volontairement, donc bénévolement, des projets de développement, en l'occurrence des projets de développement rural.
Oui.
Ils développaient par exemple la culture de la fraise ou la pêche hauturière la petite île qui dépend de l'île Maurice et qui est située beaucoup plus à l'est, qui s'appelle Rodrigue.
Ah, justement.
Rodrigue, qui est le lieu de certains des romans de Le Clésio.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. Donc, tous ces gens spécialistes de leur métier, très diplômés en général, étaient là pour apprendre ce qu'ils savaient à des jeunes gens, des élèves.
Oui,
par exemple,
ça.
Nous avions un lycée polytechnique qui formait tous les techniciens. Et puis plus tard, je crois qu'ils sont passés au stade ingénieur de Lille.
Ah, très bien. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Jacques Gérard qui nous a expliqué comment était l'île Maurice. En effet, il a eu un poste important de dirigeant à l'île Maurice, un peu comme un ambassadeur. Ambassadeur qu'il est devenu ensuite quand il est allé au Libéria. Alors nous en étions à l'histoire de l'île Maurice et j'aimerais bien que nous abordions maintenant l'économie, car c'est une économie, je crois, qui est en expansion, Jacques Gérard.
Absolument. Pour beaucoup de Français, l'île Maurice est d'abord des vacances,
voilà,
une destination prestigieuse, le soleil. Il faut savoir que l'île Maurice est un des petits tigres économiques.
Ah oui, un peu comme les briques.
Voilà. Et que depuis leur indépendance, en 1968, date à laquelle l'île était très très pauvre,
oui.
Pour ceux qui aiment les chiffres, c'était un produit par tête de $300, pas grand-chose.
Oui, oui.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 10 fois plus. Il y a eu un développement considérable lié à la fois au pragmatisme des dirigeants, quel que soit leur parti,
oui,
et à l'existence d'une classe d'entrepreneurs particulièrement efficace.
Alors vous êtes arrivé en 1990. Alors en 1990, comment était l'économie déjà ?
Alors il y avait une expansion considérable du tourisme déjà et de l'industrie textile.
Oui, parce qu'en fait, nous on croit toujours que c'est le tourisme qui apporte le plus à l'économie. Non, ce n'est pas cela.
Ça n'est pas le cas, même si ça a pu l'être à un moment donné. Il y a une industrie qui s'est diversifiée, d'ailleurs, et qui emploie un grand nombre de personnes. Et il y a également une agriculture qui reste l'un des trois piliers, avec le tourisme, de l'économie.
Alors quand vous dites l'un des trois piliers, donc... D'abord
l'industrie,
ensuite le tourisme.
Le tourisme et l'agriculture.
Et l'agriculture.
L'agriculture, c'est-à-dire la canne à sucre.
Oui, ça, je crois que...
Il y a au-dessus de ça un secteur financier indépendant, autonome, par rapport aux banques internationales, et qui est extrêmement performant. Il est l'un des principaux investisseurs du cône sud de l'Afrique.
Oui.
Parallèlement avec les banques sud-africaines, bien entendu. Mmh. Et cela, évidemment, n'est pas très connu.
Non, on pense toujours qu'aux plages et au soleil.
Voilà.
Donc je suis très contente que nous en parlions longuement maintenant.
Voilà. Il y a eu, par exemple, à un moment donné, un mouvement d'extrême gauche qui s'appelait le mouvement militant mauricien, MMM, facile à retenir, qui est arrivé au pouvoir parce qu'il avait derrière lui tous les syndicats de travailleurs. C'était dans la foulée de mai 68. Beaucoup, à l'île Maurice, étaient anxieux de savoir ce qu'ils allaient faire. Mmh. Un peu comme aujourd'hui en Grèce.
Oui.
Ils se sont dit, nous avons été élus par les dockers, par les ouvriers, il faut qu'on leur donne du travail, il faut qu'on leur donne de l'emploi. Alors, on va développer, justement, cette base industrielle.
Ah oui.
En attirant les capitaux étrangers. Et par exemple, l'industrie textile mauricienne doit beaucoup aux capitaux du quartier du Sentier, à Paris.
Ah oui.
Qui, jusque-là, faisait travailler une main-d'œuvre pas toujours régulière pour fabriquer nos jeans. Et qui a trouvé plus avantageux de faire travailler de façon très régulière et pour des salaires encore bien plus faibles des dames mauriciennes qu'on a mis devant des machines à coudre dans les années 80.
Ah oui, d'accord.
Et puis, il y a aussi l'existence d'une classe d'entrepreneurs particulièrement inventive et agile, composée à la fois de franco-mauriciens, des descendants des premiers colons français de l'île, et qui continuent à être les possesseurs de l'essentiel du capital financier de l'île, mais également de Chinois, descendants des petits boutiquiers. Mais bon, entre le petit boutiquier chinois et l'expert comptable, il y a une génération, pas plus.
Ah, oui.
Donc, ils sont très, très performants, eux aussi. Et puis, des ismaïliens, c'est une branche du chiisme que l'on connaît surtout par l'Aga Khan et la Bégom.
Ah, oui.
Donc, des gens extrêmement entreprenants qui, justement, ont essaimé tout autour de l'océan Indien et qui sont d'excellents entrepreneurs.
Ah oui, ça, on ne le sait pas du tout. C'est très intéressant. Mmh. Donc, on peut dire que l'économie s'est quand même complètement transformée.
Absolument. Depuis 1968, jusqu'à nos jours, l'île s'est modernisée à pas de géant. Il y a des autoroutes, un aéroport international de première classe, des hôtels absolument superbes, dont beaucoup d'ailleurs appartiennent au groupe Beachcomber, un groupe autonome mauricien,
oui.
Même si d'autres appartiennent au groupe Accor en France ou à des groupes sud-africains. Et on voit là encore la capacité des Mauriciens à profiter de ce qui se passe chez eux au lieu de subir la loi.
Oui, parce que pour une île, c'est vrai que c'est tentant de ne faire que ce que les autres veulent.
C'est alors ce qui se passe dans d'autres pays.
Mais oui, c'est pour ça. Donc, eux ont su prendre le pouvoir économique.
Si oui, prendre en main les capacités qu'offrait leur propre ville et leur propre île.
Et les villes sont bien entretenues
La capitale, Port-Louis, qui a été créé donc par les Français, comme son nom l'indique. C'est le port du roi Louis. À l'époque, c'était Louis XIV ou Louis XV. Créé par de la Bourdonnais. Gentilhomme malouin.
Oui.
Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, existe à l'île Maurice une petite industrie très particulière, un artisanat plutôt, qui consiste à reproduire des bateaux d'époque, des trois mâts avec leurs canons. C'est une industrie qui vient justement de Saint-Malo. Comme Saint-Malo était jumelé avec Port-Louis, un jour, un malouin a eu l'idée d'initier des gens de Port-Louis à cet artisanat qui est maintenant florissant et la plupart des touristes repartent avec un petit bateau sous le bras.
Mais je crois qu'il y a aussi des très beaux bateaux qui sont
immenses. Oui, il y en a d'immenses.
Et très beaux. Et je crois que ça vaut assez cher aussi.
Ah, absolument, oui, parce que c'est des milliers d'heures de travail.
C'est ça. Mais c'est vraiment très beau. Moi, j'en ai vu quelques-uns et sont vraiment des très, très beaux bateaux. Mmh. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre aussi, comme ça? Qu'est-ce qu'ont fait les Mauriciens?
Alors, il y a eu cette industrie textile qui a été au départ le choix le plus simple à faire, mais qui a été suivie par de l'industrie électronique, pharmaceutique, beaucoup plus haut de gamme, et également une industrie textile haut de gamme. La deuxième entreprise dont nous achetons les pulls jacquard les plus bariolés, après Benetton, vient de l'île Maurice.
Ah oui. Et c'est quelle marque, ça, alors?
Oh, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un industriel ismaïlien.
Ah oui, mais ils ont beaucoup de goût, en plus.
Hein. Oui, et bon, ce sont des bureaux de style français qui leur donnent les idées, aussi.
Oui, donc c'est un pays, finalement, qui a beaucoup de facettes, et pas seulement le tourisme, comme on a tendance à le penser.
Ah, exactement. C'est une micro-société des nations, compte tenu de la composition de la population qui vient, je vous l'ai dit, au fur et à mesure de notre conversation, de France et d'Angleterre, les deux pays qui ont gouverné avant l'indépendance, de Madagascar et d'Afrique, d'où sont venus les esclaves de l'époque sucrière, du Pakistan et de l'Inde, d'où sont venus les remplaçants des esclaves africains, mais également de Chine, d'où sont venus des petits commerçants qui tiennent boutique au coin de la rue.
Alors, je pense à l'agriculture aussi. C'est la canne à sucre.
C'est la canne à sucre pour l'essentiel, même si on essaie de diversifier un peu pour justement répondre aux besoins du tourisme en produits de qualité.
Ah oui. Et alors, là, est-ce que les terres, il y a beaucoup de terres qui sont justement des terres agricoles?
Ça a été un travail titanesque. L'île est une île volcanique. Les terrains étaient encombrés de grosses pierres qu'il a fallu broyer.
Ah là là!
Enfin, rassembler d'abord dans le coin d'un champ, puis broyer. Ça a servi ensuite à la construction des maisons. C'est un travail titanesque, mais peu à peu, l'ensemble de l'île, en tout cas tout ce qui n'était pas montagneux, Et vous savez que l'île Maurice est beaucoup moins montagneuse que la Réunion, est devenue un immense champ de canne à sucre.
Ah oui, un immense champ.
C'est très beau.
Et vous, alors, vous êtes resté combien de temps à l'île Maurice?
Je n'y suis resté que 2 ans.
2 ans.
J'y serais bien resté davantage, mais...
Vous avez été nommé après?
J'ai été nommé ensuite au Burundi, un très beau pays aussi, d'Afrique centrale. Malheureusement, à l'histoire, beaucoup plus heurtée.
Oui, j'ai l'impression. Mais vous avez une vie vraiment très, très remplie. J'espère que vous reviendrez parce que vraiment, c'était... Nous avons beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, je n'ai pas fini. J'ai encore quelques instants. On a parlé du tourisme. J'ai l'impression qu'il y a seulement quelques villes qui sont visitées par les touristes.
Oui, quelques villes et quelques plages.
Voilà.
C'est essentiellement le nord de l'île, avec oui. Grand Bay.
Ah oui.
Un endroit magnifique. Une baie pratiquement ronde.
Ah,
ronde
oui.
Comme un cercle, comme on en fait à l'école. Et puis, Trouobiche, dans la poursuite. Et également, donc, du côté sud de l'île, il y a de beaux hôtels près de l'aéroport de Plaisance. Et dans d'autres endroits également, au Morne, au Grand Morne. Bref, une grande partie de la côte, au moins là où il y a le lagon, qui est une beauté aussi, est occupée par ces hôtels de tourisme.
Alors, je crois que vous avez choisi, pour terminer, de nous faire écouter Minor Tango Garcia. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi.
D'abord, parce que j'adore Garcia, c'est un très grand violoniste. Il est l'auteur de ce tango que je dédie à mon épouse, qui
oui,
est argentine.
Voilà, je crois que votre épouse... qui est argentine, a beaucoup partagé parce qu'elle a vécu avec vous dans des pays très difficiles aussi.
Et
absolument. Voilà. Donc, bravo, un grand merci parce que nous avons été comblés par cette interview. Et je vous en remercie vivement et j'espère que vous reviendrez parce qu'on a beaucoup encore de questions à vous poser.
Pourquoi pas.
Merci.
Merci.